Voilà.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Chantal Loureau.
Bonjour, bienvenue dans C'est pas du vent. Terre, vie, héritage, de la rareté à la prospérité. C'est le thème de la COP désertification, la COP 15, qui s'ouvre lundi prochain, le 9 mai, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. De l'Afrique subsaharienne à l'Asie centrale, en passant par le Proche-Orient, des centaines de millions de personnes souffrent actuellement de la sécheresse, phénomène aggravé par le réchauffement climatique et par l'activité humaine. On manque d'eau, le désert avance, les sols se dégradent, le prix des denrées alimentaires grimpe et la pauvreté s'accentue. Pendant deux semaines, les représentants des 195 pays membres de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification vont tenter à Abidjan de se mettre d'accord sur une série d'objectifs avec une ambition, stopper l'accroissement de la désertification qui menace au moins 40% des terres émergées. Comment relever ce défi? Avec quels moyens? Quels acteurs? Initié en 2005 par l'Union africaine, des démarré en 2007, le projet d'ériger une grande muraille verte au Sahel avait suscité beaucoup d'espoir. 15 ans après, où en est-on?
C'est pas du vent sur RFI.
Jean-Luc Chotte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRD et président du comité scientifique français de la désertification. Vous êtes en duplex des studios de France Bleu Hérault à Montpellier. En ligne également avec nous, Patrice Burger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président fondateur de l'ONG CARI et l'un des experts de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Et vous co-présidez le réseau international DryNet qui fédère les organisations de la société civile dans la Convention. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation avant votre départ pour la Côte d'Ivoire où vous allez participer à la COP 15. Jean-Luc Chotte, on s'y perd un peu entre les multiples COP. Quels sont pour vous les enjeux de cette COP désertification?
Les enjeux, on les retrouve dans le titre voulu par la Côte d'Ivoire qui organise la 15e édition de la COP 15 à Abidjan, Terre, vie et prospérité. Prendre soin de sa terre, des sols, de la biodiversité, de l'eau est un élément majeur pour le bien-être des populations.
Quelques 25 chefs d'État et de gouvernement sont attendus à Abidjan pour l'ouverture de la COP. Quel type d'engagement concret peut-on espérer de ce sommet qui doit déboucher sur ce qui s'appellera la déclaration d'Abidjan ?
Depuis ces dernières années, il a été dans l'agenda international des Nations Unies mis en œuvre des objectifs de développement durable. Et l'un de ces objectifs, c'est tendre vers un monde neutre en termes de dégradation des terres. Les engagements doivent contribuer à cette cible, à atteindre cette cible, d'éviter que les terres se dégradent, de restaurer les terres dégradées quand c'est possible.
Patrice Burger, vous êtes du côté des ONG, de la société civile. Quelles sont vos attentes précises ?
D'une manière générale, c'est que des décisions fortes soient prises et qu'elles soient en relation avec les enjeux du temps présent. Et bien sûr, que les acteurs de la société civile, qui en fin de compte sont ceux qui mettent en œuvre sur le terrain et sur les territoires à la maille la plus fine de la lutte contre la dégradation des terres, soient associés aux décisions, à la mise en œuvre et actifs. Donc il s'agit en même temps d'une demande permanente de reconnaissance de la société civile pour l'action menée.
Alors on va prendre tout de suite un exemple des effets de la sécheresse. Aux portes du désert irakien, le lac Sawa a aujourd'hui totalement disparu. À sa place, on ne voit plus que des terres arides. Autre effet de la sécheresse dans ce pays semi-aride qu'est l'Irak, les tempêtes de sable se multiplient. C'est un reportage de notre correspondante à Bagdad, Lucille Wasserman.
Le vent souffle sur Bagdad et en quelques instants, la ville a complètement changé de visage, enveloppée dans une tempête de poussière et de sable. Tout est devenu orange, impossible de voir à plus de quelques mètres. Les habitants dehors plissent les yeux, tous, se secouent les cheveux. On dirait une scène sortie d'un film sur la fin du monde. Mais cela n'a rien de divertissant, car beaucoup d'habitants, avec des problèmes respiratoires, doivent en ce moment même prendre la route de l'hôpital. Où je retrouve justement le docteur Aya Sader, une urgentiste qui travaille dans le plus gros centre hospitalier de Bagdad. Je quitte ce monde orangé pour me réfugier dans son service où quelques patients sont déjà pris en charge.
À cause de la tempête dehors, on va avoir beaucoup de patients avec des problèmes de suffocation aujourd'hui. La plupart d'entre eux ont besoin d'oxygène et d'une dilatation des poumons.
Derrière elle, une femme d'une soixantaine d'années se tient en tailleur sur l'un des lits du service. Elle plaque un masque d'oxygène sur son visage. Sa fille la regarde à ses côtés, une main sur ses genoux. Son mari également, il a l'air inquiet, mais accepte de me parler.
Ma femme fait de l'asthme chronique, de manière sévère. À chaque fois qu'il y a une tempête de poussière, il faut qu'on vienne ici, parce qu'elle n'arrive plus à respirer. L'année dernière, on n'est presque pas venu, mais cette année, deux fois, cinq fois.
Il se tourne vers sa femme, elle hoche la tête en signe d'approbation.
Peut-être cinq fois, oui. La semaine dernière, elle a failli mourir. Ils lui ont donné un traitement ici et ils ont dû la garder une semaine, avec intraveineuse et tout un tas de médicaments.
Derrière les fenêtres du service, les arbres s'agitent dans tous les sens. La ville devient presque rouge. Le docteur Aya regarde la scène et commente.
Cette année, il y a bien plus de tempêtes que l'année dernière. C'est très fréquent. Le nombre de patients augmente en ce moment. À chaque tempête, on a une vingtaine de patients qui viennent ici.
Cela fait 3 ans que je vis à Bagdad et je n'ai jamais vu autant de tempêtes de poussière que ces derniers mois. Bien sûr, dans ce pays semi-désertique, cela n'est pas rare, mais en ce moment, on en voit une presque chaque semaine. Le lendemain, je pars rencontrer Salman, un militant de l'environnement, pour comprendre ce qu'il se passe en Irak. Je le rejoins sur les bords du Tigre, l'immense fleuve qui traverse Bagdad et qui laisse apparaître en son centre des portions de terre ici et là.
Le mois dernier, on a eu des tempêtes de sable tous les 2 jours. Même dans des zones humides où il n'y a normalement jamais de tempête. Pourquoi ? À cause de la sécheresse. On vient de finir le mois d'avril et normalement, en avril, on a un très bon niveau d'eau. Car la neige a fondu dans les montagnes et cette eau doit normalement venir à nous. Mais regardez, il n'y a pas d'eau en ce moment.
Les causes de cette désertification ne sont pas seulement climatiques. En amont des 2 fleuves qui traversent le pays, la Turquie et l'Iran ont construit de gigantesques barrages qui retiennent une grande partie de cette eau, censée se déverser en Irak. Cela fait des années que les gouvernements disent négocier pour un meilleur partage, mais la situation ne fait que s'aggraver dans le pays.
Ces 2 fleuves ne devraient être ni pour les Irakiens, ni pour les Turcs, les Iraniens ou les Syriens, mais pour toutes les populations de la région. Et aujourd'hui, il n'y a pas de bonnes négociations pour pousser la Turquie, la Syrie ou l'Iran à nous rendre ce droit. Si rien n'est fait, l'Irak va devenir un désert.
La remarque peut sembler alarmiste, mais en réalité, la transformation est déjà en cours. Dès qu'on s'éloigne un peu des fleuves, les terres sont de plus en plus sèches et arides. Les premiers à en souffrir sont les agriculteurs, qui n'arrivent plus à arroser leurs champs, faute de ressources en eau suffisantes. Je prends la route vers le sud de Bagdad, dans une zone connue pour la production de pommes de terre. Lorsque j'arrive sur place, quelques portions semblent totalement abandonnées, sèches et craquelées. Un agriculteur, Moussab Ibrahim, 60 ans, accepte de me faire visiter.
Toutes ces terres-là, tout le monde en parlait avant. Il y avait plein d'agrumes ici. C'était des terres très productives et surtout rentables. Mais l'eau se fait de plus en plus rare aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est obligé de planter des pommes de terre qui demandent moins d'eau.
Cet agriculteur m'emmène près d'un canal où des enfants se jettent à l'eau pour se rafraîchir. Les températures atteignent déjà les 40 degrés ici en journée. Moussab s'approche et pointe une ligne noircie au-dessus du niveau de l'eau.
Vous voyez cette démarcation ? L'eau du canal devrait être 1,30 m plus haut normalement. Du coup, on a mis en place des pompes pour drainer les eaux souterraines. C'est illégal en Irak, mais on est obligé de le faire si on veut avoir de l'eau. Le problème, c'est que ces eaux détruisent aussi nos champs parce qu'il y a beaucoup de minéraux dans ces eaux-là, comme du phosphore, du sel. Moi, j'ai dépensé près de 8 000 $ cette année pour mes plantations et mes fertilisants, et tout est presque mort. Comment je vais retrouver cet argent ? Si l'on continue comme ça, ce sera juste impossible d'être agriculteur en Irak. Ce secteur qui apporte de la nourriture dans l'assiette des Irakiens et pour lequel on ne reçoit aucun soutien.
En allant dans cette zone au sud de Bagdad, je n'ai trouvé que colère et désespoir. Alors j'ai demandé à rencontrer un représentant du ministère des ressources en eau en Irak pour comprendre pourquoi le pays peine tant à mettre en place des solutions. Ondaeb Abdullah, un conseiller du ministre, a accepté de me répondre dans un café au centre de Bagdad.
Oui, actuellement, nous sommes confrontés à de nombreux problèmes. Premièrement, notre relation avec la Turquie. Il faut effectivement qu'il y ait plus de pression sur le pays voisin. Mais la Turquie, comme d'autres, pointe aussi du doigt notre gestion de l'eau à l'intérieur même de l'Irak avec, par exemple, l'utilisation de méthodes d'irrigation très anciennes qui doivent effectivement être modernisées. Sauf que tout cela dépend d'une politique générale dans le pays. Or, vous le savez, il y a beaucoup d'instabilité et de crises qui se sont enchaînées ici et cela a retardé la résolution de tous ces problèmes.
Des retards qui ont accéléré la désertification très inquiétante de l'Irak, considéré comme l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique.
On l'entend dans ce reportage de Lucille Wasserman à Bagdad, la sécheresse a de multiples conséquences sur l'agriculture, l'économie, la santé, sans compter les implications géopolitiques. Jean-Luc Schott, est-ce que ça signifie que la lutte contre la désertification, que la restauration des terres ne peuvent se faire que par une approche globale ?
Absolument, et on voit bien dans votre exemple, comme vous le soulignez, l'importance de gérer de façon, je dirais, transfrontalière des ressources qui se raréfient, en l'occurrence, dans cet exemple-là, la question de l'eau, qui a un impact à la fois dans les et qui a pour origine ou cause l'augmentation des tempêtes de sable, mais aussi avec des impacts, puisque les acteurs sur le terrain réfléchissent à changer leur système de production. Donc il y a effectivement la nécessité d'avoir des protocoles d'accords internationaux, et c'est vraiment l'un des enjeux de la COP désertification sur cette question de sécheresse, pour pouvoir répondre, je dirais, de façon coordonnée et articuler comment est-ce que chacun gère des ressources qui se raréfient comme l'eau.
Patrice Burger, votre réaction à ce reportage à Bagdad ?
D'abord, il montre très bien que la dégradation des sols et la désertification ont des effets longue distance, c'est-à-dire que ça se passe dans un endroit et d'autres endroits qui en subissent les impacts sous forme de tempêtes des sables. La Chine, par exemple, Pékin a été systématiquement soumis à des tempêtes de sable. Et la Chine a pris des mesures dans la région de Mongolie intérieure, notamment, où s'est tenue la COP 13 à Ordos, où elle a aménagé des millions de kilomètres carrés en traitant les surfaces, en reboisant, en installant des systèmes d'agriculture qui arrêtaient la dégradation des sols. Et ça a considérablement réduit les tempêtes de sable sur Pékin. Ce qui veut bien dire que la dégradation des terres, en fait, elle ne connaît pas de frontières. Or, ce que les agriculteurs vivent en Irak, il y a beaucoup d'agriculteurs et de petits paysans qui le vivent dans beaucoup de régions du monde. Et donc, il faut à un moment donné que ces personnes aient une voix. Et le cadre de la Convention désertification, le cadre multilatéral, permet de faire émerger cette voix. Et en tout cas, nous, société civile, on veut vraiment porter la voix de ces 100 voix dans ce cadre international pour ramener la situation à sa réalité.
Patrice Burger, si l'on prend le cas du continent africain, quelles sont aujourd'hui les principales causes de la dégradation des sols ?
Les dégradations des sols, on a coutume de dire que c'est à la fois des causes naturelles, comme les sécheresses, hein, vous l'avez évoqué, ça c'est un des éléments, mais il y a aussi le réchauffement des températures, il y a aussi, et c'est assez paradoxal, quand il y a à un moment donné sur des terres sèches une pluie abondante qui tombe, vous avez énormément d'érosion qui se passe sur le sol. Et l'érosion, c'est ce qui fait que l'eau fuit. Quand la goutte d'eau touche le sol, elle fuit sur les terres et elle va se mettre dans des endroits, dans des bas-fonds où elle est évaporée par le soleil. En clair, l'eau ne rentre plus dans la terre parce que la terre est dégradée. Et à partir de ce moment-là, le sol ne peut plus jouer son rôle d'éponge et donc la désertification se poursuit. Ça, c'est pour les causes naturelles. Après, il y a les causes humaines. Les causes humaines, c'est des mauvaises pratiques agricoles, laisser le sol à nu, retourner le sol sur des grandes profondeurs, réduire la biodiversité vivante du sol, c'est-à-dire utiliser aussi des produits chimiques qui tuent le sol vivant, parce que la base d'un sol, pour qu'il fonctionne, pour qu'il fasse circuler l'air et l'eau, c'est qu'il y ait des micro-organismes vivants. Il y a plus de biodiversité dans le sol que partout ailleurs. Donc c'est ça qu'il faut entretenir et c'est ça qui permet à l'eau de s'infiltrer, c'est ça qui permet des sols vivants et c'est ça qui permet d'éviter la dégradation des terres. Et c'est en Afrique, c'est plus particulièrement sensible parce qu'il y a beaucoup de zones sèches et arides où effectivement la chaleur et le manque d'eau accentuent ou accélèrent ces phénomènes.
Patrice Burger, vous pouvez nous rappeler en quelques mots en quoi consistait ce projet de construction d'une grande muraille verte à travers 11 pays du Sahel ?
Alors justement, pour faire face, on voit bien que par rapport à ce qu'on vient d'évoquer avec vous et Jean-Luc, que l'ampleur du problème fait qu'on ne peut pas se limiter à des petites actions locales, etc. Il faut des projets de grande ampleur qui, en dimension territoriale, internationale, transfrontière, voire continentale, prennent la mesure et je dirais, font face à cette situation. La Grande Muraille Verte se voulait, ou se veut, une de ces grandes initiatives, 11 pays, je dirais, on a coutume de dire de Dakar à Djibouti, essayer d'affronter le problème du Sahel, qui est donc un endroit particulier au sud du Sahara, où on a une désertification massive dans les villages, dans les villes, etc. Cette grande muraille verte, c'était ça l'idée, c'est d'avoir un projet à la dimension du problème. Donc 11 pays se sont regroupés au sein d'une agence panafricaine de la grande muraille verte. On a coutume de dire que c'est une initiative africaine et elle visait vraiment à établir non pas une barrière d'arbres, comme ça a été au début assez mal compris, on disait que c'était une barrière d'arbres. Non, c'est pas ça. C'est adresser le problème de la lutte contre la dégradation des terres par de multiples actions de restauration des terres, de développement agricole par des méthodes plus écologiquement plus intensives, de faire du reboisement, d'utiliser des variétés adaptées, et en gros de permettre aux populations qui habitent localement de rester sur place, de vivre de leur territoire et d'en tirer les ressources et notamment la sécurité alimentaire.
Alors Jean-Luc Schott, la Grande Muraille Verte devait réhabiliter 100 millions d'hectares de terre d'ici 2030, 15 ans après le démarrage effectif de l'initiative. Où en est-on aujourd'hui ?
Peut-être qu'avant de répondre à votre question, je voudrais compléter les propos de Patrice. C'est que les terres dégradées en Afrique, elles touchent 135 millions de personnes au Sahel. Donc la volonté politique de proposer à l'échelle internationale, mais à l'échelle africaine, par des acteurs africains, une solution à la lutte contre la dégradation des terres et la désertification des terres, s'inscrit également dans la volonté de l'Afrique de contribuer à l'accord de Paris en stockant du carbone dans les sols et dans la végétation. Il était prévu initialement de stocker 250 millions de tonnes de carbone dans ces 11 pays, mais également de s'inscrire dans la Convention biodiversité. Donc, après cette première décennie d'action, et effectivement, la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification a produit un rapport, un bilan d'étape de ces 10 premières années, dans lequel un constat a été fait, c'est qu'on est loin des 100 millions d'hectares restaurés. On estime, avec les chiffres qui ont été remontés vers la Convention, qu'on est entre 10 et 15% de la restauration de ces 100 millions d'hectares. On est loin des 250 millions de tonnes de carbone stockées dans les sols et la biomasse et dans la création de ces 100 millions d'emplois verts. Mais une grande partie de cette analyse repose sur le fait qu'il n'a pas été toujours très clairement défini ce pouvait être un projet Grande Muraille Verte. Et comme le disait Patrice, imaginé comme uniquement un projet d'afforestation, c'est-à-dire de planter des arbres entre Dakar et Djibouti, et pas du tout la façon dont il faut comprendre cette initiative. On est bien à des actions à l'échelle des territoires. Et donc, il y a, je dirais, cette faiblesse à consolider. Qu'est-ce qu'un projet Grande Muraille Verte ? Stocker du carbone, lutter contre la dégradation des terres, mais aussi assurer la sécurité alimentaire, assurer le bien-être des populations. Et donc, cet ensemble de, on va dire, pour utiliser un terme technique scientifique, d'indicateurs qui vont permettre de dire nous en sommes là et nous devrions en faire plus, et reste encore à définir. Et je pense que, et c'est pourquoi le Comité scientifique français de la désertification et des instituts de recherche comme l'IRD travaillent à mieux définir ces indicateurs pour accompagner la mise en œuvre des projets Grande Muraille Verte, en sachant ce qu'ils sont, en disant aux bailleurs, vous allez financer ce type de projet et nous serons en mesure de vous dire où nous en sommes dans 5 ans ou dans 10 ans par rapport aux objectifs nécessaire à atteindre d'ici 2030.
Alors, illustration de la Grande Muraille Verte, je vous propose maintenant de partir pour le Sénégal, où chaque année 40 000 hectares de forêt disparaissent. Le programme des Toloukers, porté par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, a été lancé en août 2020. Le reportage de Théa Olivier à Belvédère, à 40 km de Dakar, où l'un de ses projets pilotes est mis en œuvre.
À côté d'une zone industrielle, le village de Belvédère se démarque par ses baobabs et ses champs verts. Djibril Sall, le chef du village, est content de voir pousser de jeunes arbres fruitiers et des légumes plantés grâce au projet Toloukers, qui signifie le jardin de la maison en wolof.
Nous, c'est des familles qui n'ont pas de moyens, qui ne peuvent pas aller à Marseille. Donc le projet là, Toloukers, vraiment, ça nous fait plaisir, très content. Je suis très fier que le Toloukers, on l'amène ici. Là. Quand tu allais à Marseille, il ne faut pas aller là-bas, tu allais juste à côté de toi. Les arbres, c'est très important. C'est très important. Parce qu'il n'y avait pas de pluie, parce qu'ils sont tous là, ces deux arbres. Mais si on amène les arbres, la pluie va tomber.
Ce projet d'implantation de Toloukers a été initié par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, présidée par le militant écologiste et ancien ministre de l'Environnement Haïdar El Ali. Depuis, 12 unités ont éclos sur tout le territoire sénégalais. À Belvédère, la forêt nourricière et médicinale de 5000 m² a été plantée avec la participation de 60 habitants du village pendant 10 jours. Ali Ndiaye est le maître d'œuvre du projet.
Ce design, ce n'est rien d'autre que un petit poulailler au centre, 90% d'arbres autour, avec des plantes médicinales, avec quelques légumes, tout intégré dans un système qui permet de maximiser le recyclage, qui est la base de l'agroécologie, de l'agroforesterie. Et maintenant, on les installe au niveau près des maisons, avec l'appui de la communauté, la construction et les collectifs. Les communautés se sont tellement appropriées du projet et ils se sont engagés. On n'utilise pas du matériel de grandes infrastructures, on utilise des matériels qu'ils connaissent. C'est de la paille, c'est la construction, ils obéissent à la logique de leur construction. Donc ils entendent le projet, ils le comprennent. On y met un peu de touche moderne dans la question de la durabilité, avec un panneau solaire. Voilà, qui permet qu'ils puissent avoir l'eau pour cultiver. On parle de forêt nourricière, et ce sont des systèmes de production qui valorisent la forêt. Parce que si en wolof on dit « garap moins sa garap », c'est-à-dire que l'arbre est un médicament. Donc l'aspect santé est très fort là-dedans.
Avec 400 arbres plantés dans chaque Toloukers, ce projet se présente comme une solution de reforestation du Sénégal. Une première étape pour sensibiliser et ensuite espérer multiplier le modèle dans les villages voisins, ouvrir des pépinières, voire même créer des oasis. Pour Ali Ndiaye, c'est aussi l'espoir de lutter contre l'érosion des sols et de les régénérer.
Plus de 100 arbres ont été plantés ici. On les a protégés et dans les arbres aussi, on a mis du nevedaï, on a mis quelques fruitiers, on a mis les guertes tout bas qu'on dit là. Et les plantes ont été choisies en fonction aussi de leur rôle dans le système. Voilà, ici nous avons les plantes médicinales, on a plus de 6 variétés, l'artémisia, il y a beaucoup de variétés ici. Ici nous avons des tomates et des poivrons consorciés avec des oignons verts, ça nous aide déjà à contrôler les maladies. Ici aussi on a des aubergines et des oignons verts. De l'autre côté aussi, Ici, on a des papayers consorciés avec le nébédaï. Là, on commence à penser aux engrais verts, parce que les nébédaï, c'est des plantes extrêmement riches, aussi bien pour notre alimentation que pour la nutrition du sol. Et voilà, c'est une légumineuse. Et on les a fait tout autour, et elles sont irriguées. Donc, vous voyez, on commence par les médicinales. Ici, elles sont les plus importantes, c'est les maîtres d'œuvre. Après, on vient dans les légumes. Et après, en sortant, on vient dans les papayes. Derrière, ce sont les arbres les plus rustiques. Nous avons des cajous, des acacias, nous avons un peu de nîmes. Donc, ces cultures-là, elles sont plus rustiques. Elles vont nous servir de barrière à la fin. Et on va avoir une chose comme ça, une oasis. Ça nous permet de diminuer l'utilisation de l'eau aussi, parce qu'on forme un microclimat.
Face à la crise du coronavirus, l'agence de la reforestation a voulu aider les villages sans eau et sans électricité à devenir plus autonomes de façon écologique, explique Karine Fakouri, directrice des éco-villages et des filières vertes.
Donc nous intervenons pour donner non pas de la sécurité alimentaire, mais de la souveraineté alimentaire immédiate, tout en créant des filières professionnelles. À partir de là, nous intégrons les autres missions de l'agence, qui sont l'installation de pépinières, et puis également l'installation des opérations 100 millions de graines. Et en plus, nous fusionnons avec une entreprise qui est Fabrimétal, qui est le parrain de ce village belvédère et qui a tout un programme de reforestation qui est à moins d'un kilomètre d'ici. Donc c'est tout un écosystème que nous restaurons à partir du cœur du Tolouker, qui est donc ce programme de forêt médicinale et nourricière et qui a pour vocation de restaurer d'abord sur un demi-hectare la forêt, mais qui va avoir vocation très rapidement à pousser les murs de la clôture pour la régénération naturelle. Parce que là, ça devient une forêt nourricière, mais c'est également une banque de semences qui se crée.
L'objectif de cette année, avoir une banque de 105 formateurs pour démultiplier le modèle et d'ici 2023, couvrir le territoire national avec l'implantation de 1000 Tolouker, dont certains dans le nord du pays, au cœur de la Grande Muraille Verte.
Jean-Luc Schott, le projet pilote de Belvédère, c'est un bon exemple de ce qui doit se faire au Sahel.
C'est un exemple exceptionnel. Effectivement, on voit bien dans les témoignages apportés sur la nécessité d'une gestion intégrée de l'utilisation de tous les bénéfices des arbres, des plantes, pour à la fois la sécurité alimentaire, mais aussi des plantes médicinales, d'avoir une approche territoriale où, dans laquelle les acteurs sont associés dans la définition des actions à faire et dans leur suivi et pour en récolter les bénéfices. Donc effectivement, c'est un exemple absolument exceptionnel, à partir duquel on doit s'inspirer. Il ne s'agit pas de faire du copier-coller, mais en s'inspirant des principes et en les adaptant à des contextes différents, des différents pays, que tout au long de la Grande Muraille Verte. J'étais au Niger il y a 2 mois, et l'approche étant la même, avec d'autres outils, d'autres arbres, d'autres gestions intégrées des terres, mais en impliquant les populations, en impliquant les décideurs et aussi en impliquant la recherche pour pouvoir décider où quelles solutions on est capable d'amplifier pour avoir les résultats qui répondent aux besoins des populations.
RFI.
Les grands principes de ma culture biologique, c'est premièrement, comme je vous ai dit, mieux soigner la fumure organique. La santé de l'humus dépend de la santé des animaux qui ont fabriqué cette matière organique.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
I used to walk 100 miles to get water for my people. Used to walk 100 miles to get water, to get water.
Upita malade mudu katajidi ni sungurumi kamle ni ubeki prematadi duni angama zaudila. Tigo kumana robne ulairutara nga alisini ube kolonji de solila na mahine anga mahola ube sege ube nyanina uhaike bebaula.
water for my people. Used to walk 100 miles to get water, to get water.
It's harder and the desert get the blues. I dare you, walk a mile inside our shoes. My brothers are marching 1,000 miles. They all share one dream and a broken smile. Running away from hell straight to the sea. Get on the boat, cause they head to sea. The El Dorado on the other side. I used to walk 100 miles to get water for my people. Used to walk 100 miles to get water, to get water. Ube barala kile koro washi jibi jiki mininji dobli ji alikoli jitu bulu angamuso negena fache uhamina mamuso kashira ngahalibi angarub neutira mahine angamola besege ube nyanina hakebe baula hito kona na fila. Mahine angamola, besege ubinyani na hakebe baula hito kona na fila. I used to walk 100 miles to get water for my people.
La chanteuse malienne Ina Modja, qui est également ambassadrice de la Grande Muraille Verte. Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Alors que la COP 15 s'ouvre lundi à Abidjan, nous continuons à parler des moyens de lutter contre la désertification en compagnie de Jean-Luc Schotte, directeur de recherche à l'IRD et président du comité scientifique français de la désertification, et de Patrice Burger, président de l'ONG CARI et co-président du réseau international DryNet. On parlait tout à l'heure du bilan mitigé de la Grande Muraille Verte. En janvier 2021, la France a organisé à Paris le One Planet Summit. Les bailleurs internationaux, les États, les donateurs privés ont promis plus de 12 milliards d'euros pour relancer l'initiative de la Grande Muraille Verte, avec un Emmanuel Macron très investi.
Nous avons clairement un enjeu d'opportunité économique dans toute cette région et de création d'emplois. Nous avons un enjeu d'alimentation des populations. Les déplacements de population, les crises et, si je puis dire, la pandémie qui est venue encore aggraver ce que le terrorisme faisait vivre avec toute la région. En réalisant les objectifs de l'initiative à l'horizon 2030, c'est 100 millions d'hectares de terres dégradées qu'on restaure, c'est la capacité à séquestrer 250 millions de tonnes de carbone et à créer 10 millions d'emplois. C'est-à-dire une part de la réponse du défi économique que j'évoquais, évidemment une part de la réponse pour la biodiversité, mais aussi la contribution réelle, concrète, du continent africain à la lutte contre le réchauffement climatique et sa contribution active.
Patrice Burger, est-ce que l'accélérateur du One Planet Summit a vraiment relancé la Grande Muraille Verte ?
Quand même, je voudrais préciser que la Grande Muraille Verte, l'initiative, est inédite par son ampleur. Donc, elle explique en partie, au moins en partie, un certain nombre de difficultés. Donc, je crois que l'accélérateur, effectivement, va permettre d'accélérer. Pourquoi ? D'abord parce que beaucoup, on voit bien que compte tenu de la nécessité de sortir de la logique de projet en silo vers un programme prioritaire, je dirais, sur de telles surfaces, il faut un investissement pas seulement national, mais international. Il faut donc que cette cause puisse être plaidée et financée au niveau international, non seulement pour des bénéfices locaux, mais pour des bénéfices internationaux et intercontinentaux tels que ça a été évoqué. Donc l'accélérateur aujourd'hui, avec ses 5 piliers, hein, investissement dans les petites et moyennes exploitations, renforcement des chaînes de valeur, restauration des terres et gestion durable des écosystèmes, des infrastructures résilientes au climat et accès aux énergies renouvelables, un cadre économique et institutionnel favorable pour une gouvernance efficace et renforcement des capacités, on voit bien qu'il s'agit là non pas d'un projet, mais d'un programme multisectoriel qui nécessite effectivement un engagement massif. Alors les investissements de promis par les bailleurs de fonds, et je pense que c'est tout à l'honneur de la France d'avoir aidé à poser tout au moins un point d'étape en disant on va mobiliser non pas 12 mais 16 milliards d'euros sur ces 5 milliers, mais avec des conditions. Et je crois que ça, c'est un fait nouveau dont manquait l'accélérateur. Jean-Luc l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la nécessité quand même de caractériser. Qu'est-ce qu'on veut faire réellement? Qu'est-ce que c'est que des projets de la Grande Muraille Verte? Comment est-on en capacité de suivre les engagements financiers et les décaissements? Comment est-on capable de suivre les progrès de la mise en œuvre? Comment peut-on fournir des conseils à qui on en a besoin? Comment peut-on aider à mobiliser les ressources nécessaires? Parce qu'on voit bien que même 16 milliards, ce qui paraît un chiffre astronomique, ne sera évidemment pas suffisant pour répondre à l'ampleur du problème, et surtout, surtout, comment coordonner les efforts. Donc pour le moment, on peut dire que l'accélérateur est certes un potentiel, un espoir. On n'a pas encore vu réellement tous les effets de l'accélérateur, c'est relativement récent. Nous, on pense que c'est quelque chose, nous, société civile, on pense que c'est quelque chose qu'il faut soutenir et que l'excuse longtemps invoquée qu'il n'y a pas de moyens, aujourd'hui, est quand même relativement levée, puisqu'un ensemble de financeurs internationaux, le Fonds international développement agricole, la Banque mondiale, le Fonds pour l'environnement mondial, la Banque africaine de développement et un certain nombre d'autres, ont promis d'investir dans ce qui était jusqu'ici vu comme un projet d'environnement, ce que ça n'est pas, ce que ça ne peut pas être, puisque c'est beaucoup plus large que ça.
Jean-Luc Schott, alors justement, comment passer du potentiel à la concrétisation du projet ?
Il faut partir des territoires, et en reprenant l'exemple que vous avez relaté dans le reportage sur le Sénégal, en mettant tous les acteurs autour de la table et en partageant à la fois les connaissances traditionnelles, les connaissances des acteurs de terrain, les connaissances de la recherche, pour pouvoir définir pour un territoire donné, dans un contexte particulier, qu'est-ce qu'un programme Grande Muraille Verte ?
Ça veut dire que de 2007 à 2021, on avait patiné parce qu'on s'y était mal pris. Je veux dire par là, les bailleurs de fonds, les ONG ont peut-être voulu exporter au Sahel des solutions qui ne correspondaient pas forcément à la réalité du terrain. On n'a pas assez écouté les populations sur place ?
Je ne pense pas que ce soit tout à fait ça l'une des explications. L'une des difficultés, c'est l'ampleur du projet tel que l'a relaté Patrice. C'est un projet, je ne crois pas qu'il existe d'autres projets à cette échelle-là sur le continent africain, voire sur d'autres continents. En revanche, les cibles annoncées, stocker du carbone, restaurer des terres et créer des emplois, sont bien évidemment majeures. Mais les modalités, quelle est l'échelle d'action ? Avec qui on le fait, ça doit être mieux discuté. Et quand on lit le rapport produit par la Convention des Nations Unies de lutte contre la désertification, elle pointe 4 défis, dont l'un des défis est la question de gouvernance et l'autre est la question de la coordination. Et l'accélérateur de la Grande Muraille Verte a pour ambition de relever ces défis et donc de coordonner les actions au bon niveau, à la bonne échelle, avec la nécessité d'être à la fois très impactant à l'échelle des territoires, au bénéfice des populations, en mobilisant toutes les connaissances et en étant en mesure de dire combien on a réalisé de l'objectif vers lequel on voudrait tendre pour pouvoir avoir un rapportage à l'échelle internationale et aussi associer les succès, je dirais, territoriaux avec une approche dans les 11 pays du Sahel. Et ça, c'est un vrai enjeu pour qu'on puisse dire en 2030, dans cet endroit, dans ce territoire, nous avons fait. Il a été réalisé ça, et ça contribue à l'échelle globale, à l'atténuation du changement climatique, comme c'est l'un des objectifs qui a été mis en avant lors du lancement de l'accélérateur de la Grande Muraille Verte. C'est un enjeu africain pour les populations, mais c'est aussi un enjeu international. Et c'est pour ça que c'est très important que les bailleurs puissent apporter cette contribution pour répondre à l'accord de Paris, à savoir réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère à l'échelle mondiale.
Mais pour que les projets réussissent et deviennent durables, il faut que les populations s'approprient les projets. Est-ce que ce n'est pas là que souvent le bât blesse, Patrice Burger ?
Je pense que vous avez raison, c'est une analyse qui est juste. Cette Grande Muraille Verte n'a pas bénéficié d'une véritable sensibilisation et d'un embarquement, je dirais, généralisé de la population. Compte tenu de son ampleur inédite, il y a la nécessité que dans tous les villages, dans toutes les communes, il y ait véritablement le grand tambour de la savane africaine qui résonne, qui explique et qui embarque les agriculteurs, les femmes, les jeunes, les candidats à l'émigration, tous ceux qui ont envie et qui espèrent avoir un avenir viable sur ces territoires, qui voilà quelque chose, la Grande Muraille Verte, c'est notre affaire, c'est notre cause, on va s'y investir, les gouvernements de nos pays vont nous soutenir, les coopérations internationales et d'autres pays vont nous soutenir, et je crois que ça, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait assez. Nous avons eu de multiples preuves en mobilisant dès 2013 les réseaux de la société civile, notamment à Ouagadougou, comme nous l'avons fait dans le cadre du réseau Sahel désertification que coordonne le CARI. On a posé le constat que les populations étaient très faiblement à l'époque, en tout cas en 2013, au courant de cette initiative. Donc là, il y a un véritable déficit qu'il faut combler massivement. L'autre question, c'est les agences de la Grande Muraille Verte. Donc il y a l'agence panafricaine qui recouvre les 11 pays et les agences nationales. Ces agences ont été créées progressivement avec souvent des visions un peu nationales, je dirais, et qui ne se sont pas toujours complètement saisies de la dimension continentale de ce projet. Je crois que là, il y a un effort à faire. Et encore une fois, je le redis, les acteurs de la société civile, ils sont sur le terrain, ils sont dans les villages, ils sont sur les territoires. La mise en œuvre de la Grande Muraille Verte dépendra, bien sûr, des décisions internationales et du financement international, mais elle dépendra avant tout de la manière dont les paysans, les femmes, les jeunes, tous ces gens qui sont dans les territoires, les maires des petites municipalités, vont prendre en compte la gestion de leur territoire pour donner vie et corps à ce grand projet.
Mais l'autre problème auquel se sont heurtés plusieurs pays de la région, comme le Mali ou le Burkina Faso, c'est l'insécurité liée à la recrudescence d'attaques terroristes. Jean-Luc Schott, comment mettre en place des projets dans des zones dangereuses que les populations locales fuient, où les humanitaires étrangers ne peuvent plus se rendre et que les États semblent parfois abandonner?
Vous avez raison, et c'est une partie du contexte qui a fortement changé entre le lancement de l'initiative de la Grande Muraille Verte à ses débuts et aujourd'hui en 2022. Cette question de stabilité et de sécurité. Et la recherche peut apporter des éléments en travaillant sur l'analyse des causes et l'analyse des solutions apportées en matière de gouvernance, en matière de stabilisation des populations, sur quelle population il faut s'appuyer pour mettre en œuvre des solutions adaptées et qui répondent aux besoins des populations. Et en écho à ce que disait Patrice sur la mobilisation des acteurs de la société civile, nous, à l'IRD, nous avons fait une analyse de quelles sont les forces dans les pays de la Grande Muraille Verte en matière de recherche. Et à nouveau, on voit qu'il existe une grande diversité, une grande expertise, et qu'au final, l'appropriation des questions de recherche autour de la Grande Muraille Verte ont été que très moyennement appropriées par les équipes de recherche. Et donc, il y a une volonté, et notamment à l'IRD, de consolider et de pouvoir mobiliser cette formidable force de recherche dans les 11 pays de la Grande Muraille Verte, parce qu'à nouveau, produire des connaissances qui répondent à la question quels sont les acteurs qui vont, quel type de gouvernance pour contourner ou les questions de stabilité et de sécurité, quelles nouvelles connaissances en matière d'agroécologie il faut produire soit en Éthiopie ou soit au Burkina Faso, c'est un enjeu majeur. Donc effectivement, dans sa posture et dans le rôle que la recherche doit avoir, elle doit pouvoir, et je reviens à votre question, pouvoir documenter sur les raisons et les modalités d'une gouvernance adaptée pour faire face à des problèmes de stabilité et de sécurité dans les pays, dans certains des pays de la Grande Muraille Verte. Bien évidemment, c'est un sujet majeur si l'on veut qu'effectivement la Grande Muraille Verte puisse se déployer et atteindre les objectifs et les ambitions qu'on souhaiterait qu'elle ait.
Alors vous mentionniez, Jean-Luc Schott, l'agroécologie. Patrice Burger, c'est votre cheval de bataille. En quoi l'agroécologie est-elle la solution pour lutter contre la désertification?
Permettez-moi juste de rebondir sur ce que vient d'être dit en termes d'insécurité. Je voudrais simplement rajouter que l'insécurité, le lit de l'insécurité se fait dans l'absence de développement et les déficits de gouvernance. C'est pas par hasard que nous avons de l'insécurité au Sahel, c'est parce que justement il n'a pas été, les problèmes que nous venons d'évoquer n'ont pas été adressés et qu'il y a une vraie désespérance de la population. Alors concernant l'agroécologie, oui, en effet, fait. Nous pensons que, comme dans d'autres pays, et on le voit avec la crise ukrainienne, la question de la sécurité alimentaire est revenue à l'ordre du jour, alors que l'on la croyait un petit peu relativement aux oubliettes ou ne concernant que quelques personnes. Et la question de produire localement, tout en respectant les patrimoines nourriciers, tout en gérant de manière économe l'eau, tout en gérant la fertilité des sols et leur productivité, c'est effectivement un enjeu local qui peut être adressé directement par l'agroécologie. Et c'est pourquoi nous souhaitons et nous allons porter un plaidoyer dans la COP15 à Abidjan, afin que l'agroécologie soit l'approche agroécologique et pour ceux qui ne savent pas, la FAO a édicté 10 principes de l'agroécologie qui permettent de mieux comprendre tous les éléments que l'on vient de citer en matière de lutte contre la dégradation de la terre et la désertification sont compris dans ces 10 principes de l'agroécologie. Nous allons donc essayer de faire adopter des décisions qui estime que l'agroécologie doit être privilégiée comme un des outils permettant de lutter contre la désertification et la dégradation des terres, tout en associant bien sûr les populations. Et chose extraordinaire, c'est que des recherches scientifiques, dont certaines des nôtres, dans le cadre de projets Avaclim, avec des scientifiques de l'IRD et d'autres, nous sommes en train de démontrer que les valeurs ajoutées de l'agroécologie sont véritablement significatives et qu'elles permettent aujourd'hui de prendre des décisions en matière de politique publique pour la transition agroécologique qui est nécessaire sur ces territoires, peut-être encore beaucoup plus que sur d'autres, parce que la pression sur les ressources naturelles est devenue trop forte.
Vous pouvez nous donner brièvement quelques exemples de techniques possibles pour restaurer les sols ?
Alors, pour restaurer les sols, il y a bien sûr les diguettes anti-érosives, les bandes enherbées. Ça, c'est par exemple des ouvrages très simples que l'on fait pour empêcher l'eau qui tombe ou le vent d'éroder les sols. Ensuite, il y a les techniques des demi-lunes. Demi-lunes, ça, c'est des demi-cercles qu'on le creuse dans la terre sur des pentes. Et quand l'eau tombe, ça permet à l'eau de s'infiltrer. En fait, ces techniques-là, ce sont des techniques qui cherchent à retenir l'eau du ciel, même si elle est rare, et à la faire s'infiltrer sur place. Parce qu'on l'oublie trop souvent, la terre, c'est le meilleur réservoir d'eau. Il n'y a pas besoin de construire des citernes. Il faut stocker l'eau dans la terre.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été les invités de C'est pas du vent, Patrice Burger, Jean-Luc Schott. Je rajoute, Patrice Burger, que votre ONG, le CARI, organisera du 5 au 8 octobre prochain à Montpellier le 5e sommet Désertification, qui portera sur la mise en œuvre des décisions de la COP15. Je remercie nos confrères de France Bleu Hérault d'avoir permis ce duplex avec vous, Jean-Luc Schott. Et merci à François Porcheron pour la réalisation. À demain, et d'ici là, portez-vous bien.